Zapad. Visuellement, c'est ultra flippant. Et oui, ça fait peur. Et je pense qu'il y a des gens qui croient qu'on va être envahi un moment.
Bonjour à toutes et à tous, c'est avec une joie teintée d'appréhension que je vous accueille aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen, l'émission qui décrypte son époque à travers ses mots blablabla, mais qui n'en mène pas large aujourd'hui. Car Vladimir Poutine, qui a des espions partout et certainement même ici, n'attend qu'un mot de son agent double, vraisemblablement Quentin lui, le seul membre de cette équipe aimant suffisamment l'argent pour trahir sa patrie. Poutine donc n'attend qu'un mot de Quentin pour balancer un missile Oreshnik sur Radio France. Alors ça c'est juste un enregistrement de Cyril après la dernière opération Chili Con Carne à la cantine, mais gageons qu'une bombe atomique doit faire à peu près le même bruit. Bref, Poutine nous écoute les amis. En cause, le caractère subversif de notre émission du jour qui va oser se pencher sur un exercice militaire géant mené par les Russes tous les 4 ans et qui, de vous à moi, relève autant de l'exercice militaire que de la propagande, une démonstration de force qui a un nom, Zapad. Des centaines de chars dotés d'énormes canons s'enfoncent dans la taïga pendant que des milliers d'hommes musclés rampent dans la boue en treillis. Pour notre camarade GC, c'est un rêve éveillé. Pour son père, le président du Parti communiste de Côte d'Or aussi, mais pour d'autres raisons. Pour nous, en revanche, c'est un cauchemar. Un cauchemar, car Zapad veut dire Ouest. Et voir ses militaires et ses énormes missiles braqués sur nous, comme disait Cyril en 81 quand il avait cru voir les chars russes déferler sur Porto-Combo, ça fiche les miquettes. Alors, faut-il avoir peur du Zapad ou bien faut-il rester stoïque devant ses gesticulations militaires aux portes de l'Europe ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Et bonjour Marie Mindras.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Marie, vous êtes politologue, spécialiste de la politique russe, professeure à l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris, membre également de l'excellente revue Esprit, dont je ne rate aucun numéro, je vous le dis.
Surtout cet été.
Cet été, je l'ai lu effectivement. Votre dernier livre s'appelle La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin. C'est sorti l'an dernier chez Kalman Levy. Vous allez tout nous expliquer de cet exercice militaire qui débute donc aujourd'hui en Biélorussie, Zapad. Juste le temps de vous présenter mon régiment à moi. Quentin lui, Manon Mariani, au rapport.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour
à tous. On dit chef, oui chef. Aucun de vous deux n'a fait son service militaire, visiblement.
On a fait la JAPD.
On est en 91, donc non.
JAPD, journée d'appel.
Bien sûr, bien sûr. Génération sacrifiée. Pourquoi vous avez été viré ? Insoumission ? Insubordination ?
Vous aviez fumé dans l'enceinte de l'établissement ?
J'ai bavardé.
Et donc, C'est étonnant, vraiment étonnant. En attendant, Manon, vous nous présentez tout à l'heure votre pièce jointe du jour.
Oui, le bras droit de Vladimir Poutine. Il a été président, premier ministre, toujours dans l'ombre de son maître à penser, mais dernièrement, il a pris un tournant ultra radical.
Face à vous, Marie Mindras, il ne fait aucun doute qu'en cas de conflit armé, si la France de René Coty est attaquée sur son sol, il rejoindra l'armée de terre. Sa seule exigence, sa seule requête vis-à-vis de l'état-major, c'est qu'il puisse bénéficier d'une moto, et surtout, surtout, que l'armée fournisse des charlottes, car il veut bien mourir pour la France, mais impeccablement coiffé. Quentin, vous êtes allé...
Moi, il reste des cheveux à coiffer, c'est pour ça.
Je vous ai tendu la perche, vous êtes engouffré dans la brèche. Quentin, vous êtes allé demander aux gens s'ils connaissaient déjà le Zapad.
Et autant vous dire que personne n'avait l'info, mais qu'évoque aux gens l'idée de milliers d'hommes qui se lancent dans une manœuvre militaire géante, de la peur, de l'angoisse, du message aussi envoyé au monde. Déjà que l'actualité donne grise mine aux passants, là j'ai achevé l'étincelle qui restait dans les yeux de la rue, Mathieu.
C'est bien dit. Vers 16h30, nous partirons à la découverte de ces bourdes militaires qui ont jalonné l'histoire quand un pays en envahit un autre par erreur ou que des soldats tirent sur leurs propres alliés parce qu'ils ont trop bu. Une fois de plus, votre vision de l'humanité ne ressortira pas grandie du Zoom Zoom Test. Ce qui, en revanche, va vous réconcilier avec l'homme, c'est François Rollin, qui chaque vendredi désormais passe au crible de sa sagacité nos thématiques de la semaine. C'est souvent assez saignant car visiblement, François Rollin n'est pas un grand fan de Zoom Zoom Zen. Vous l'entendrez juste avant 17h. Après 17h, planquer la moula dans la literie, on revient sur la crise de 2008. La banque Lehman Brothers faisait faillite, le système bancaire mondial vacillait, mais Xavier Musquet, le directeur du Trésor, tenait bon. Il nous raconte cette tempête économique dans Zoom Zoom Back spécial 2008. Mais d'abord, Marie Mindras, revenons à cet exercice militaire qui démarre en Biélorussie. Pourquoi ce Zapad est particulièrement scruté cette année ?
Il a toujours été scruté. Évidemment, c'est le seul exercice formel Zapad, donc entre les militaires russes et les militaires biélorusses, qui se tient en pleine guerre.
Et oui, c'est ça qui est nouveau.
C'est pour ça, en réalité. Ils avaient monté un exercice Zapad à l'automne 2021, donc en fait quelques mois avant l'agression de l'Ukraine, qui était là absolument massif et qui avait en plus suivi un premier exercice militaire russe massif, lui aussi, aux frontières de l'Ukraine en avril 2021. Donc là, en 2023, parce qu'en fait, c'était devenu un rythme tous les deux ans, hein, avec aussi des exercices Vostok, avec la Chine, la Mongolie.
De l'autre côté. Donc,
le Vostok étant le côté oriental. En 2023, ça a été annulé. Ces exercices ZAPAD, ils n'ont pas eu lieu. Ben, ça n'allait pas très fort pour les Russes et pour l'armée biélorusse aussi, pour ce qui était des fronts en Ukraine. Donc il faut bien savoir que voilà, l'exercice ZAPAD, il y a eu des périodes plus ou moins fastes.
Mais donc
et
là, ça veut dire que cette année,
ça va être de petite ampleur.
Ah voilà, parce qu'ils ont toutes leurs troupes mobilisées.
Mais d'abord, ils ont tous leurs trucs mobilisés effectivement ailleurs. Et il ne faut pas oublier que depuis 18 mois, l'armée russe a beaucoup, beaucoup de mal à remplir les rangs, hein, parce qu'ils perdent environ 1000 hommes par jour, tués ou grièvement blessés. Ils ont vraiment énormément de mal. Donc, il y aura beaucoup moins d'armement, de véhicules, beaucoup moins d'hommes, et surtout, il y aura probablement plus de Biélorusses que de Russes. Et, intéressant aussi, Loukachenko a voulu que ces exercices se passent un petit peu plus vers l'Est, et donc pas trop près de la frontière avec les pays occidentaux, parce qu'il espère être porté par cette nouvelle lune de miel avec la Maison Blanche. On pourra en parler. Finalement, se détache nettement de la position beaucoup plus guerrière de Vladimir Poutine.
On va rentrer dans le détail de ce ZAPAD. Lui, son service militaire, je peux vous dire qu'il l'a fait. 5e régiment de chasseurs alpins de Ponto Combo. Et si dans la caserne, on l'avait affublé du surnom de supercoptère, c'était pas à cause de ses capacités à piloter un hélico. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Monsieur Noël, vous êtes navrant. Bonjour à tous, bonjour à tous.
Il est choqué.
Vous êtes navrant. J'adore ton regard. Alors, racontez-nous Cyril, soyons sérieux, le ZAPAD, d'où ça sort? Ça a une longue histoire.
Imaginez des chars qui grondent, des avions qui rugissent, des officiers qui surveillent et donnent des ordres, des dizaines de milliers de soldats massés à la frontière occidentale de la Russie. Ils s'exercent, ouf, car même si ça y ressemble, ce n'est pas une guerre. Ce à quoi on assiste, ça s'appelle ZAPAD. ZAPAD en russe, ça veut dire ouest. Et ZAPAD, ce sont des manœuvres militaires. Le nom est limpide. ZAPAD, ce sont les grands exercices de l'armée russe tournés vers l'ennemi historique, vers l'ouest, et tout particulièrement donc vers l'OTAN. C'est une vieille tradition que ces ZAPAD, elles remontent à l'époque soviétique. En 1981, l'URSS organise d'ailleurs un ZAPAD monumental, plus de 100 000 hommes qui mettent en scène des scénarios d'invasion de la Pologne. Le message aux Occidentaux est clair, jouez pas aux malins, car nous sommes prêts. À l'époque, c'est Brejnev qui dirige l'Union soviétique.
Mais avec la chute du rideau de fer, évidemment, les ZAPAD vont perdre de leur superbe.
Et oui, l'armée soviétique ne pèse plus grand-chose, l'URSS se désintègre, il n'y a plus vraiment de muscles à montrer. C'est avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine que la machine reprend du poil de la bête. En septembre 1999, en pleine seconde guerre de Tchétchénie, la Russie organise le premier ZAPAD version Poutine. Mais c'est à partir de 2009 qu'il décide d'en faire une démonstration de force régulière, officiellement pour des manœuvres défensives. Ils vont en faire tous les 4 ans, et c'est donc pour cette année, la première depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors d'où ça sort ZAPAD? Et bien de là, et ce n'est que le début, Mathieu, vous le savez, de notre histoire.
Évidemment, ce n'est que le début. Merci Cyril. Marie Mendras, Cyril nous disait que ces exercices ZAPAD étaient surtout là pour impressionner l'Ouest. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Tout à fait. Ce sont des exercices d'intimidation au sens où voilà, Poutine veut montrer
les muscles.
D'abord, qu'il a un allié militaire qui est la Biélorussie. Il faudra en reparler parce que ce n'est pas un allié si fiable que ça. J'aimerais bien reparler notamment de l'incapacité de l'armée biélorusse d'avancer en territoire ukrainien où ils ont essayé de prendre Kiev en février-mars 2022. Vous savez, ça a été une déroute totale de l'armée russe. Ben, en partie aussi parce que les Biélorusses avaient tout simplement refusé d'y aller.
Ah, d'accord.
Mais oui, ils avaient refusé d'y aller. Il y avait eu beaucoup de sabotage des chemins de fer pour éviter que leur équipement arrive. Et ça a continué pendant toute l'année 2022. Donc, ce qui me permet de vous rappeler que absolument aucun chef d'État ou de gouvernement, quel qu'il soit, n'a approuvé la décision personnelle de Vladimir Poutine d'agresser l'Ukraine le 24 février 2022, et sûrement pas Loukachenko. Donc c'est... Alors, intimidation...
Ils étaient pour s'entraîner, mais pas pour faire la guerre.
Alors, en 2021, c'était évidemment beaucoup plus qu'il y avait l'effet intimidation, puisque Vladimir Poutine et ses militaires espéraient encore nous faire plier nous faire reculer sur l'OTAN. Il y a eu beaucoup d'intimidation aussi politico-diplomatique et cyber, beaucoup de subversions. Et puis ça n'a pas marché, nous n'avons pas reculé. Mais là, je dirais que c'était plus que l'intimidation, mais nous n'avons pas su le lire comme des préparations. Aujourd'hui, l'intimidation ne va pas marcher du tout. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, nous, pays occidentaux et pays de l'OTAN, nous faisons nos propres exercices au même moment. Les Lituaniens et les Polonais, et ça s'appelle Tarasis, et nous avons développé, l'OTAN a ces dernières semaines donc apporté plus de matériel et amené plus d'hommes vers la frontière donc de la Russie, de l'Ukraine et de la Russie. Et dans cette affaire, comme Loukachenko ne veut pas du tout abîmer sa nouvelle relation avec Donald Trump et espère la levée des sanctions occidentales, il va la jouer beaucoup, beaucoup plus sage que ne l'espéraient probablement les Russes.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Un spectacle destiné à frapper les esprits, une débauche de moyens et des tirs à balles réelles. Non, on ne revient pas cet après-midi sur la conférence de rentrée des antennes de Radio France jeudi dernier, mais sur l'opération Zapad 2025, des exercices militaires russes qui démarrent aujourd'hui en Biélorussie. La spécialiste de la politique russe, Marie Mindras, est toujours avec nous pour en parler. Marie, pourquoi déjà ces exercices se passent en Biélorussie et pas sur le territoire russe ?
Ce sont des exercices russo-biélorusses et certains ont eu lieu en territoire russe. Là, c'est j'attends de voir parce qu'ils ont commencé il y a quelques jours, mais les exercices eux-mêmes vraiment, on ne sait pas encore exactement comment ça va évoluer dans les jours qui viennent, puisque c'est sur 4 jours. Et ça va être donc en territoire biélorusse, parce que tout simplement, les Russes, aujourd'hui, ne veulent pas avoir ce type de manifestation. Parce que dans le jeu de propagande et d'intimidation, quel est toujours le discours du Kremlin ? C'est que c'est nous qui attaquons la Russie.
Oui, oui.
C'est que c'est nous. On a l'intention depuis toujours d'attaquer la Russie. L'intention étant déjà l'action, ce sont des exercices à titre défensif. C'est-à-dire qu'il ne faut qu'il n'y ait aucune image d'une Russie qui soit en guerre ou en exercice de guerre sur son sol. Voilà.
Concrètement, il va se passer quoi pendant 4 jours ? C'est quoi le planning ? Est-ce que c'est un laboratoire ? Je voyais par exemple que la Russie allait tester son missile Oreshnik en version nucléaire.
Comment ils peuvent tester un missile en version nucléaire ? Ça me fait peur, Marie.
C'est improbable.
Ah oui.
C'est improbable.
C'est du bluff.
Vous savez, notre métier n'est pas simple. Ni moi universitaire, ni vous journaliste. C'est que tout ce qui vient de Russie, à 95%, c'est de la désinformation. Et c'est vraiment, ça rend nos métiers vraiment très très difficiles. Parce qu'en même temps, dans cette mer, cet océan de désinformation, il y a des éléments d'information qu'il faut trouver, qu'il faut chercher, qu'il faut ensuite comparer avec d'autres sources que nous avons. Il ne faut pas passer, à côté. Et ce que dit l'OTAN, enfin les dirigeants de l'OTAN et tous nos gouvernements, depuis quelques jours, c'est attention, on ne va pas se faire avoir une nouvelle fois. Donc on est hyper vigilants, et puis ils peuvent toujours aussi appuyer sur un bouton, ce soit pas tout à fait prévu, donc on est super préparé. Et je pense que dans quelques jours, on en saura plus.
Marie Mindras, inutile de le nier dans vos mémoires. Vous écrirez qu'au cours de votre carrière, deux rencontres vous ont marqué. Deux hommes au charisme similaire, inspirant la crainte, Vladimir Poutine et Quentin, lui. Mon conseil est, n'ayez pas peur derrière ce visage fermé, indéchiffrable, et ce corps exagérément musclé, se cache en réalité un être adorable. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qu'on envoie dans la rue, à la rencontre des gens.
Et je marche dans Paris. Quelques poubelles renversées et les vitrines fortifiées de bois me rappellent que Blocontou est passé par là avant moi. Il pleut, la ville est triste, et je dois parler d'un exercice militaire russo-biélorusse à des gens qui n'attendent que ça, c'est certain. Jusqu'à cette femme qui me sourit.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Monia. Vous m'avez fait un peu de peine parce que je vous vois chercher des bloqueurs.
Alors c'est pas des bloqueurs, moi, que je cherche. On fait une émission qui s'appelle Zoom Zoom Zen.
Oh ! Mais c'est vous ? je vous ai jamais vu votre visage, mais je suis archi fan de l'émission, archi fan de Mathieu Noël. Mathieu, reviens le matin.
Ah,
ouais,
ouais.
Non.
Ça, c'est... Ah bon. Je préfère faire des grasses matinées.
J'adore les grasses matinées.
Je lui fais lire à Monia notre mot du jour.
Zapad.
Une série d'exercices militaires stratégiques russes.
C'est ultra flippant. C'est la démonstration qu'il y a eu là, il y a quelques jours des Russes, Chinois et Indiens.
Ah, en Chine.
En Chine, avec le défilé militaire chinois.
Sur la place Tiananmen.
Sur la fameuse. Donc c'est ultra anxiogène. Après, ce sont des régimes autoritaires. Alors je vais surtout pas dire que c'est pas une dictature. Ce sont des régimes autoritaires qui, eux, leur job, c'est d'envoyer un message au monde pour dire on est là. Ça correspond pas forcément à une réalité, mais c'est visuellement, c'est ultra flippant. Et oui, ça fait peur. Et je pense qu'il y a des gens qui croient qu'on va être envahi à un moment.
Elle me confie sa situation monoparentale. Comment on parle de ça aux enfants ?
C'est super compliqué de parler géopolitique avec des enfants d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a un sujet qui est devenu, et c'est normal, très prégnant en France. On a par exemple, il y a un petit copain qui est d'origine ukrainienne. Parce que la maman, elle est réfugiée depuis 2 ans en France. Et du coup, c'est très complexe de ramener ça à hauteur d'enfant. Et on explique que les guerres, ça a toujours existé. Que voire même, c'était pire avant. Que la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Que oui, on est dans un climat qui est un peu anxiogène, mais que ça va aller. Enfin, on est obligé de les rassurer.
Ce monsieur maintenant qui avance vers moi, la chemise rose, la veste en jean, l'œil taquin, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux avoir votre prénom, monsieur ?
Michel.
Michel, vous avez quel âge ?
76 ans.
Ah, vous êtes à la retraite ?
Heureusement.
Est-ce que c'est bien la retraite ?
C'est bien, mais ça arrive trop tard.
Belle réponse. Et vous savez quoi, Michel, originaire du Pays Basque, 76 ans, il sait de quoi on parle.
Je suis marié avec une Russe. J'ai eu un enfant avec une autre Russe. Et j'allais à Moscou, où le père de la mère de ma dernière fille était général. Alors, vu qu'on est un petit peu le système.
Je parle à Michel du message envoyé par ces manœuvres et d'une forme de néo-impérialisme et de notre crainte de nous faire envahir un jour. Il secoue la tête.
Ils vont pas envahir. Mais c'est pas possible. C'est des choses. C'est pour faire peur aux gens.
Vous pensez pas que Poutine, il a des envies un peu plus grandes que.
Non. Mais non. Non pas. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, avec l'arme de dissuasion, personne ne va attaquer. Vous allez attaquer quoi ? Avec quoi ? Allez où ?
Là, vous n'avez pas l'impression qu'on est dans un contexte propice à ce que ça...
Non, n'ayez crainte, vous pouvez dormir sous vos deux oreilles. Je vous le dis, et quand je dis quelque chose, j'ai toujours raison.
Vous n'êtes pas avec des journalistes qui sont sans arrêt en grève, il y en a ras-le-bol. On les aime beaucoup, mais ils sont en grève perpétuelle.
C'est pas grave, ça.
Et ils nous mettent de la musique de merde.
Mais ils sont sans grève.
Et vous trouvez bon la musique là qu'ils mettent ?
Bon, alors que je perds le contrôle de mon propre micro-trottoir, je salue Michel et je cours pour attraper cette dame.
Ah non, je vous rattrape, je suis obligée de vous rattraper. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Frédérica.
Vous avez quel âge ?
56 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je travaille dans une banque.
Mais vous n'êtes pas contente ?
J'en ai marre que vous soyez toujours en grève.
Vous avez écouté un peu de Vincent Delerme, ça fait du bien ?
Non, ce matin, c'était pas du Vincent Delerme. Excusez-moi, c'est de la musique horrible, j'en sais rien.
Je travaille pour Zoom Zoom Zen.
Ah bah ça c'est bien, je l'aime beaucoup.
Voilà, machin Noël là. Bon, Frédéric, auditrice en colère, découvre le mot qui nous intéresse.
Zapad.
On dit même Zapad 2025.
Oui, bah pour nous mettre dessus. Mais la guerre, tout le monde la veut puisque personne l'arrête. Les Netanyahou, on le laisse faire. Les Ukrainiens, ça fait 2 heures. Il baissera jamais les bras, Poutine, je suis désolée de vous le dire. Hein.
Comment on doit prendre cet exercice militaire selon vous ? Comme une menace ?
Comme une menace, tout à fait. Ben oui.
Ouverte.
Ben oui. L'Europe est même pas capable de s'entendre. Quand est-ce qu'on va faire l'Europe militaire ? Quand on sera...
Macron, il a parlé de réarmement, démographie...
Macron, sans commentaire.
C'est pas un chef de guerre ?
Macron. Ah si, c'est un va-t'en-guerre, c'est différent.
Va-t'en-guerre. De l'angoisse dans la rue à la façon d'aborder le sujet aux enfants en passant par l'arme de dissuasion qui protégerait de tout. Mais si elle tenait vraiment ses promesses, pourquoi les chars et plusieurs milliers d'hommes s'entraîneraient-ils encore ? Peut-être parce que celui qui prépare la guerre ne veut plus réellement la paix.
Vous me faites des signes pour que je dise que c'est magnifique ce que vous dites.
Vraiment. Oui,
c'est magnifique ce que vous dites, Quentin.
Merci.
C'est égo.
Marie Mendras est toujours avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin. Et ça rejoint un peu ce que dit Frédéric, il ne va pas s'arrêter, Poutine. Enfin, en tout cas, il ne va jamais baisser les bras, comme elle dit en ces termes. Vous dites, la guerre est devenue sa survie.
Oui, c'est sa survie, mais la guerre va s'arrêter parce que peut-être que Poutine est dans des fantasmes, des obsessions, des passions négatives, parce que jusqu'à présent, il en avait la capacité. Il a eu la capacité de prendre cette décision tout seul, contre l'avis de ses commandants militaires. Mmh. Et ensuite, il a envoyé, on est probablement maintenant à 1,5 million d'hommes côté russe tués ou blessés, pour une guerre qui était un pur caprice, puisque la Russie n'était aucunement menacée par l'Ukraine, ni par qui que ce soit. Il y a maintenant de grandes difficultés économiques en Russie, c'est-à-dire qu'il y a la bulle qui est l'économie de guerre, et puis il y a tout le reste, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Le problème aujourd'hui, c'est est-ce que le pouvoir russe, est-ce que son armée, est-ce que son économie, est-ce que ses administrations, est-ce que les gens qui y habitent ont encore la capacité de continuer à ce rythme une guerre
plus très longtemps.
Longue. Donc nous devons, nous, toujours finalement faire la part des choses entre volonté de revanche et de destruction et d'annihilation qui les habite au Kremlin et la capacité.
Je reviens sur Monia que j'ai rencontrée dans la rue. Et c'est une maman. Est-ce que c'est difficile de mettre des mots sur l'actualité? Je vous pose la question à vous. Comment on peut en parler avec les enfants?
Tout à fait. D'abord, j'ai trouvé ces trois entretiens que vous avez faits absolument remarquables. Vraiment remarquables. Parce que c'est pas évident sur ce sujet. Mais bon, c'était quand même aussi un jour de mobilisation. Donc, ce qui est bien, ça veut dire que c'est des gens qui sont informés, motivés. Vive la France, hein, on sait faire ça. Et j'ai trouvé l'interlocuteur
Michel 76 ans,
qui parlait après, qui disait bon, ben d'accord, non, mais les Russes vont pas venir, ils ont déjà pas la capacité d'occuper plus que le Donbass, une partie de Zaporijjé et Kherson. Comment est-ce qu'ils auraient la capacité? Alors ils peuvent nous intimider, ils peuvent nous causer plein de problèmes
et nous faire peur.
Et surtout, la guerre de Poutine, elle est en grande partie une guerre de perception. Ce que Poutine et son système voudraient, c'est qu'on soit là, tous les quatre, à avoir peur aussi. Notre rôle, c'est de, finalement. Donc, pour répondre à votre question et à la question de Monia, je crois que quand on parle d'insécurité qui ne nous touche pas directement encore, mais d'une insécurité qui est quand même partout. Et elle avait raison de rappeler aussi Gaza, Israël. La réponse que je donnerais, c'est que pour mieux en parler aux enfants, et en fait pour être plus solide soi-même, il faut agir. Agir, ça veut dire s'informer et ça veut dire participer. J'avais donné ce conseil à beaucoup d'amis qui disaient « je ne sais pas comment, j'ai peur, mes enfants sont angoissés ». Je disais « à partir du moment où vous agissez, vous avez moins peur ». Par exemple, donner tous les mois à une association ukrainienne. Dites que à votre petit niveau, vous participez à la compréhension et au soutien des Ukrainiens. Et ça marche.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Certains ont encore du mal aujourd'hui à digérer la fin de la guerre froide. Pour Cyril, c'était mieux avant, quand les hirondelles revenaient au printemps, qu'on pouvait rouler sans ceinture et que la division du monde était simple, les cocos d'un côté et les gentils de l'autre. Aujourd'hui, tout n'est que chaos, se lamentait notre rédacteur en chef en préparant cette émission. Alors, tâchons aujourd'hui de lui remonter le moral avec un quiz consacré aux plus belles bourdes militaires de l'histoire. Ce Zoom Zoom Test est dédié, cher Loïc. Et quand on parle campagne militaire, culte de la discipline, en un mot, art de la guerre, on pense immédiatement à deux peuples célèbres, les Spartiates et les Suisses. Terre d'exil pour opprimés fiscaux, sauf pour Quentin qui, en dépit de ses recherches généalogiques, n'a jamais pu trouver d'ancêtre helvète lui permettant de décrocher le précieux passeport, juste une aïeule pygmée, idylle fugace d'Edmond Louis, l'explorateur surnommé la bûche blanche, par une tribu d'Afrique centrale. Bref, la Suisse, je m'égare, je sais pas pourquoi. Terre d'exil, mais également référence en matière de bavure militaire, puisqu'un jour, l'artillerie suisse a bombardé le Liechtenstein par erreur au cours d'un exercice. Des recrues suisses ont envahi le Liechtenstein par erreur toujours pendant un entraînement, où l'armée suisse a commandé par erreur des uniformes aux couleurs du Liechtenstein.
C'est.
Ah, c'est drôle. B.
Ils pensaient qu'ils ont carrément... Vous auriez peut-être entendu parler du fait que la Suisse a attaqué le Liechtenstein. C'est ça que vous dites, la réponse B?
J'en sais.
Je vous propose une autre réponse.
Les trois.
Non, bon, alors...
A et C.
Non, c'est n'importe quoi. C'était les réponses A et B. C'est ça aussi la Suisse, mes amis. En 2007, c'est pas si vieux, en 2007, un bataillon de jeunes recrues effectue une marche de nuit, mais le sergent-chef a oublié la boussole. Plutôt que de rentrer à la caserne, il décide alors de s'orienter par rapport à l'étoile du berger, qu'il confond hélas avec une autre étoile, puisque la fine équipe va finalement se retrouver en territoire étranger, ce qui est contraire aux conventions internationales. Et ce n'est pas une première, puisqu'en 68, l'armée suisse avait déjà tiré par erreur 5 salves d'obus sur un village du Liechtenstein, s'attaquant ainsi gratuitement à un pays qui n'a plus d'armée depuis 150 ans. Mais au moins, il n'y a pas eu de victime. À la différence du désastre de Caransebeș. Vous connaissez Caransebeș évidemment aussi bien que moi, vu que j'ai déjà eu du mal à le dire.
Oui.
C'est en Roumanie, une destination qui, avec le Cap Vert, ne figure pas sur le vlog ilvoyage.fr de Pierre et Mathieu. Deux Parisiens autour du globe, à les différents tours, vous avez le monde à portée de clic. Bon, on s'égare, on va faire court. Nous sommes à Caransebeș en 1788, en plein conflit austro-ottoman. Une boucherie, 10 000 morts côté autrichien. 10 000 morts, c'est beaucoup, surtout quand on sait que ces malheureux autrichiens étaient complètement bourrés, ils se sont tués entre eux en croyant à une attaque ennemie. Ils avaient des canons, mais pas de poudre. Ils se sont donc fait défoncer. Ou parce que fort comme un turc n'est pas qu'une expression.
B. Non, franchement, c'est pas A.
A. Moi, je veux dire A.
On sait qu'ils étaient bourrés, ils se
Allez.
Sont... Allez, soyons fous. Mmh. La folie vous va bien, Quentin, lui.
C'est A.
C'est la réponse.
Mais
non. Alors, écoutez bien.
C'est une armée de Manon, quoi.
Tout commence effectivement par une grosse murge des hussards autrichiens qui, lors de leur avancée, tombent sur un camp de gitans bien approvisionné en yaules. Le gitan est partageur, mais pas le hussard, qui refuse de filer de l'alcool aux fantassins, leurs collègues. Donc les fantassins, qui, réduits à boire de l'eau croupie depuis des jours, commencent à se rebeller contre leur hiérarchie. Ça se bastonne, les officiers autrichiens débarquent pour calmer le jeu, mais voilà, entre la nuit et l'alcool, on les prend pour des ottomans. Du coup, panique, retour au camp de base, où est resté le gros du contingent, qui croit lui aussi à une attaque. Et là, c'est le drame, 10 000 macabées au petit matin, pire qu'un round de négociation entre la direction de Radio France et les syndicats. Pour la prochaine question, je vais demander à Loïc de sortir de la car nous allons parler de Waterloo, et c'est un sujet sensible puisque son aïeul Childéric la Carrière, qui fut victime d'une perfide baïonnette anglaise, en ramena le doux sobriquet de tranche de rosette. Waterloo, débâcle historique, pire que le Zoom Zoom Zing, puisqu'il força Napoléon à abdiquer 4 jours plus tard, alors que Loïc Lacarrière, lui, est toujours au pouvoir. Il y a toutefois des explications à cette défaite tragique. Napoléon n'était pas au top le jour J, et c'est un euphémisme car les carnets de son médecin personnel nous apprennent qu'à Waterloo, Napoléon souffrait de terribles crises d'hémorroïdes, que 18 heures de cheval quotidien n'aidaient pas à guérir, que Napoléon avait chopé une tourista pire que celle qui avait contraint Quentin à se réfugier dans les cabinets en pleine mission la saison dernière, où Napoléon pissait des lames de rasoir, conséquence d'une virée nocturne dans un bordel de Charleroi avec son fidèle Childéric la Carrière.
C'est.
On est en 1815.
Il avait une cystite.
Il avait une cystite, vous êtes sûr de ça ?
Moi je dirais A.
Alors, et vous dites
hémorroïde,
A.
Ouais.
Et bien à vous deux, vous avez la bonne réponse.
A et C.
Oh oui, Quentin, bravo, quelle vivacité. Réponse A et C, même les puissants sont fragiles.
Hémorroïde plus cystite.
On a beau être empereur, on n'en est pas moins homme, car en arrivant sur le champ de bataille, Napoléon souffrait de violentes crises hémorroïdaires aggravées par ses journées en selle, ainsi qu'une dysurie, une difficulté à uriner, accompagnée de brûlures intenses. Un spécialiste pourrait vous en dire plus, mais hélas, comme vous le savez, Benjamin Tranier n'est plus des nôtres. Et pour cette dernière question, laissez-moi vous présenter Henri Günther, un employé de banque de Baltimore mobilisé en 1917 et qui va rentrer dans l'histoire de la Grande Guerre et surtout de la grosse loose. Pourquoi ? Parce que Henri Günther, c'est le dernier militaire mort au combat pendant la Grande Guerre. Il a chargé les lignes ennemies tout seul alors que l'armistice venait d'être signé, où il est mort le jour où sa femme gagnait une fortune colossale à la loterie.
B.
C'est
B.
Tout de suite, l'argent.
Le, c'est l'argent, l'argent.
Oui, il n'y a que l'argent.
Si
l'argent
c'est ça,
est plus important
si c'est
que la
ça,
vie.
C'est horrible.
Et vous dites maintenant
B. AB,
oui, AB, je m'arrêterai là. Bonne réponse, Manon, bravo. Triste destin, venant de perdre ses galons pour indiscipline, comme vous, visiblement, pendant votre journée d'appel, Henri a voulu jouer les héros en chargeant les Allemands tout seul, baïonnette au canon, sauf que nous étions le 11 novembre 1918 à 10h59, une minute avant l'entrée en vigueur officielle de l'armistice. Même les Allemands ont essayé de l'en dissuader en lui faisant signe de rester près de son unité, mais en vain, il est mort à une minute de la paix.
Mais
victoire
quel bolos,
des Alliés.
Pauvre,
quel bolos, je vous en prie, un peu de respect pour ses descendants qui nous écoutent.
Merci.
Victoire de Quentin. Oh, une victoire de Quentin, ça fait toujours plaisir.
C'est si rare.
C'est si rare.
Merci à tous.
Faut-il avoir peur de Vladimir Poutine ? Quentin, dont on découvrait un jour qu'il était essentiellement payé en roubles, me fait oui de la tête, m'encourageant à lever le pied sur ma critique du régime russe. Et pourtant, on continue de zoomer sur l'opération Zapad, ces grands exercices lancés aujourd'hui en Biélorussie. La politologue spécialiste de la Russie, Marie Mindras, est toujours avec nous. Alors Marie, mercredi, la Pologne a annoncé avoir abattu 10 drones russes qui survolaient son espace aérien. Est-ce que c'est une façon pour la Russie de tester nos limites, de tester les nerfs de l'OTAN finalement ?
Sans aucun doute. C'est une façon un petit peu primaire de le faire, parce que d'abord ça fait quand même des années qu'ils se permettent de survoler la Pologne, les pays baltes, et ils respectent plus rien. Mm-hmm. Le pouvoir russe ne respecte plus aucun document, traité international, depuis déjà une dizaine d'années. Et là, tout simplement, ça leur est totalement égal. Donc il faut bien comprendre que nous, on est encore, du fait que nous sommes des pays démocratiques et organisés dans des grandes institutions, l'Union européenne, l'OTAN, eh bien nous respectons encore le droit. Alors on se dit par exemple, est-ce qu'on peut envoyer, aller détruire un drone qui serait en territoire russe pour atteindre... voilà. Donc eux, je crois que les décisions sont maintenant prises de manière assez désordonnée. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ceux qui doivent faire de l'intimidation, de la désinformation, etc. Ceux qui doivent gérer la ligne de front de 1000 km, et c'est pas facile pour les Russes non plus, très très difficile pour les Ukrainiens, pas facile pour les Russes non plus. Il y a ceux qui doivent gérer tous les problèmes de la mer Noire et de circulation dans la mer Noire. Il y a ceux qui doivent protéger également... leurs hommes, donc c'est-à-dire tout ce qui est armement de défense, et le fait qu'ils continuent comme ça à faire ces actions de provocation et d'ingérence dans des pays de l'OTAN confirme bien que c'est une guerre dont ils ne savent pas comment sortir. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce cercle vicieux de la guerre pour survivre et de la guerre pour détruire. Il n'y a pas moyen, il n'y a aucun moyen,
de reculer.
Aucun c'est ressort pas, de désescalade. C'est... Et même de désescalade.
Parce ça serait perdre la face pour Poutine, ça serait...
Poutine, la face, ça lui est égal. Lui, c'est la vie. C'est-à-dire, ouais. on ne peut... Ouais. Il ne peut survivre que s'il reste le dictateur. Et au bout de 3 ans et demi de guerre, qu'il ne réussit pas à remporter, selon ses buts de guerre, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils sont, eh bien, il ne peut pas s'arrêter. Donc, il doit la continuer. Et il espère, comme maintenant ses commandants militaires, il espère que c'est la faiblesse des pays de l'OTAN, les vulnérabilités des pays de l'OTAN, notre manque de décision, c'est-à-dire de vraiment combattre avec les Ukrainiens, et aussi l'épuisement des Ukrainiens. C'est pour ça que la balle, elle est dans notre camp.
Mais justement, est-ce que nous, en France, on se prépare réellement à une offensive russe ?
Non, mais je ne pense pas que ces provocations doivent être lues comme une offensive russe chez nous. Là, on parle de drones sans pilote, etc. Non, je pense que pour Moscou, l'important, c'est de nous faire croire qu'il y a encore un degré dans l'abomination de cette guerre, c'est de passer la frontière des pays de l'OTAN. Et donc, c'est le moment où on doit renforcer notre soutien à l'Ukraine, et ne pas avoir peur d'être envahi par une armée qui n'arrive même pas à vraiment occuper l'Ukraine.
Ce que vous dites s'entend, c'est même logique, mais si on allait jusque-là, si on allait aider l'Ukraine sur son terrain, si on allait combattre aux côtés des Ukrainiens sur le terrain, on peut imaginer qu'un État rationnel reculerait, mais c'est Poutine qui dirige cet État, comme vous l'avez dit, il a une stratégie un peu suicidaire. Qu'est-ce qui l'empêcherait? Évidemment, il ne peut pas combattre, il peut envoyer une bombe atomique quelque part, sur une grande ville par exemple, c'est possible, ça, c'est dans une fuite en avant au point où il en est.
Oui, mais Poutine n'est pas tout seul.
Et Poutine est contrôlé par quelqu'un
Non, il n'est pas contrôlé par quelqu'un. Mais c'est un homme d'État qui a énormément de contraintes à l'intérieur. Ses armées lui font des demandes et lui posent des contraintes absolument énormes auxquelles il ne peut pas répondre. Donc l'homme, il est pressuré de toutes parts. Alors maintenant, grâce à Trump, il joue des épaules en allant en Chine et dans quelques pays où il peut aller sans être arrêté pour le tribunal international de La Haye. Et derrière, nous avons des élites dirigeantes militaires civiles qui sont extrêmement inquiètes, c'est-à-dire qui ne voient pas comment elles vont pouvoir continuer à satisfaire les uns et les autres dans les mois qui viennent, et qui, en réalité, font pression pour une désescalade.
Il est freiné de l'intérieur.
Il est certainement pas soutenu de l'intérieur pour une guerre éternelle, parce que tout le monde sait qu'elle ne sera pas éternelle. Et nous devons absolument consolider et augmenter les pressions sur toutes ces élites dirigeantes, plus que les sanctions, plus de sanctions encore, mais aussi être présents en Ukraine. Hein, quel que soit le rôle de tous ceux qui seront en Ukraine, plus nous sommes présents en Ukraine, plus nous avons une chance qu'il y ait enfin un accord d'un retrait partiel des troupes russes.
Vous écoutez France Inter, et peu importe l'heure, l'essentiel c'est qu'on soit toujours en vie. L'heure de votre pièce jointe, Manon.
Oui, aujourd'hui, un dirigeant, Dmitri Medvedev, l'un des hommes politiques russes les plus connus, à la fois président de la Russie de 2008 à 2012 et premier ministre de 2012 à 2020. Longtemps présenté comme l'alter ego de Vladimir Poutine, il est devenu l'une des voix les plus radicales du Kremlin. Juriste de formation, il est depuis les années 90 un proche collaborateur de Poutine. Il se fait connaître en 2008 lorsque la Constitution interdit à Vladimir Poutine d'effectuer un troisième mandat. C'est lui qui est choisi pour occuper la présidence. Leur tandem est inédit, Medvedev au Kremlin, Poutine à la tête du gouvernement, un système surnommé la tandémocratie. Ses marges de manœuvre sont très limitées, le pouvoir reste entre les mains de Vladimir Poutine, le président, et son second. Mais il ose quand même s'opposer à son maître à penser, notamment sur le plan international. En 2012, il signe avec Barack Obama le traité New Start de réduction des armements nucléaires, mais son rapprochement avec l'Occident le fait passer pour un faible aux yeux de Vladimir Poutine.
Qui revient vite au pouvoir de toute façon.
Eh bien oui, après 2012, Poutine reprend la présidence.
Il était resté au pouvoir.
Ah oui, il était
comme vous l'avez très bien dit.
Poutine reprend la présidence et Medvedev redevient son premier ministre. Son influence décline jusqu'en 2020. Il apparaît comme un exécutant plus que comme un décideur. Il démissionne en janvier 2020 pour permettre une réforme constitutionnelle voulue par Vladimir Poutine. Et il devient ensuite vice-président du Conseil de sécurité.
Et depuis, devient quoi ?
Et ben, il s'est d'abord fait assez discret, notamment sur la scène internationale. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est la transformation. Medvedev est devenu un faucon nationaliste. Il multiplie les menaces à l'égard de l'Occident, évoquant régulièrement l'arme nucléaire. Ses déclarations, parfois outrancières, servent de caisse de résonance au discours le plus dur du Kremlin. Medvedev est passé d'un président considéré comme plus moderne, entre gros guillemets, que Vladimir Poutine, à l'une des figures les plus agressives du régime aujourd'hui.
Merci beaucoup Manon. Marie-Mamas, vous nous disiez en antenne que vous avez rencontré Vladimir Poutine à plusieurs reprises. Vous avez aussi rencontré Dmitri Medvedev. Quelle impression il vous a faite ? Est-ce que vous reconnaissez l'homme que vous avez rencontré dans ces dernières déclarations tonitruantes ?
Non, il est devenu absolument monstrueux. Oui. Bon, tout le monde vous dira en Russie qu'il est alcoolique et voilà, et très très corrompu. Et alors moi, je l'ai rencontré dans des circonstances vraiment extrêmement intéressantes. Pour revenir sur ce tandem, j'étais professeure à la London School of Economics à Londres, et nous avions décidé d'inviter Medvedev à parler à nos étudiants parce qu'il était venu. Il était président, donc il était venu au G20 à Londres. Ça devait être avril 2010, si je me trompe pas, 2009. Et donc, les étudiants lui ont posé beaucoup de questions, dont la question suivante, qui était en fait, mais on ne comprend pas très bien, entre vous et Vladimir Poutine, qui est Premier ministre, qui est-ce qui gère le FSB, les services de renseignement, les militaires ? Et tout de suite, Dima Medvedev a dit « Ah, mais bien sûr, c'est Vladimir Poutine, c'est lui qui garde absolument la gestion de tout cela. Et donc, moi, j'ai un rôle beaucoup plus de gestion du gouvernement, de l'économie. »
France Inter, Zoom Zoom Zoom. Mathieu Noël.
C'est un homme heureux qu'on reçoit à présent. Grisé cette semaine par deux nouvelles qui lui ont fait chaud au cœur, le Cap Vert sur le point de se qualifier pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde après sa victoire sur le Cameroun. Et bien sûr, l'arrivée à Matignon de Sébastien Lecornu, Mais attention Pierre, oui, il est de droite, mais sur certains dossiers, relisez ses déclarations passées, on va dire qu'il n'est pas un ami de la confrérie du Cornichon. En tout cas, Pierre Courade, vous nous résumez. Le Cornichon étant un établissement évidemment bien connu de l'Est parisien. En tout cas, Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et le Cornichon, c'est aussi le surnom de Sébastien Lecornu d'après Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si vous l'avez lu dans les journaux, mais
c'est vrai,
il y a peut-être un lien, ouais, effectivement.
C'est flatteur comme surnom en tout cas.
Absolument. Aujourd'hui, en tout cas, on a zoomé sur ZAPAD, hein, qui n'est pas une ZAD occupée par les résidents d'un EHPAD, mais un vaste exercice militaire organisé conjointement par la Russie et la Biélorussie. Il commence aujourd'hui dans le contexte de fortes tensions entre Moscou et l'Europe, et évidemment, ces manœuvres sont scrutées avec attention. Pour en parler avec nous, la politologue spécialiste de la Russie, Marie Mindras, déjà nous a expliqué que le but de ZAPAD est avant tout d'intimider l'Occident. C'est pour cette raison que cet exercice se déroule en Biélorussie, pays frontalier de l'Union Européenne et de l'OTAN. En creux, Poutine en profite aussi pour montrer qu'il lui reste encore un allié. Mais cette année, contrairement aux grands exercices de 1981 ou de 2021, ce ZAPAD sera assez réduit compte tenu de l'engagement massif des troupes russes en Ukraine. Autre différence avec les ZAPAD précédents, l'OTAN est aujourd'hui sur le qui-vive. Avant d'être sur le pied de guerre, l'incursion de drones russes en Pologne cette semaine est en tout cas un vrai test.
Merci Pierre pour ce résumé. Vous vous souvenez de cette boule au ventre que vous aviez enfant quand le professeur rendait les copies? Eh bien, chaque vendredi, désormais, on s'inflige ça à nouveau avec celui qui écoute nos émissions d'une oreille particulièrement tendre, c'est François Rollin.
Mathieu, je ne sais plus quoi vous dire, je ne sais plus comment vous le dire. Enfin, nom d'une pipe, on ne vous demande pas l'impossible, on ne vous demande pas de faire preuve d'intelligence ou de curiosité, puisqu'on vous en sait définitivement incapable. On ne vous demande même pas d'aller dénicher des sujets originaux et pointus, on vous demande juste un minimum de respect de l'auditeur, on vous demande de vous élever un petit cran au-dessus des autres stations de radio, on vous demande de sortir des sentiers battus. Or, cette semaine, vous avez enchaîné les sujets bateaux, les poncifs les plus éculés, les stéréotypes et les vieilleries. Lundi, la dysmorphie financière. Oh là là, typiquement la discussion de comptoir, attendue, banale, dont Jean-Marie Gouriot n'oserait même plus faire une de ses fameuses brèves. « Eh, toi, t'aimes bien la dysmorphie financière ?»« Ah ouais, j'aime bien, et toi ?»« Ouais, ben pareil que toi, moi aussi j'aime bien. On remet une tournée ?» Mardi, l'histoire du groupe Kering. La conversation dominante dans le métro, le numéro un des clichés, devant la météo. Tu sais que le groupe Kering, ils ont commencé petit. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit hier. Oui, mais après, ils ont bien grossi. Ah ben ça, c'est sûr, ils ont drôlement grossi. Ah, ah, la mode piquet, on est arrivé. Mercredi, pas d'émission pour cause de bloc-on-tout. Oh, encore une banalité. Jeudi, secrétaire général de l'Élysée. Le quotidien des cours d'école, la tarte à la crème des préaux. Moi, quand je serai grand, je serai secrétaire général de l'Élysée. Bah, t'es fou, ouais, c'est pourri comme boulot. Non, c'est pas vrai, c'est même pas pourri. Eh ben, t'as de la chance que la récré est finie, sinon tu vas voir ta gueule. Aujourd'hui, vendredi, l'exercice militaire ZAPAD, l'ordinaire des petites vendeuses de chez Sephora. Eh, Jean-Solino, tu crois qu'ils mettent du fond de teint, les mecs de ZAPAD? Ah non, je pense pas, pas pour ZAPAD. Pour ZAPAD, tu mets un peu de rouge à lèvres et puis c'est bon. Oui, bonjour madame, je peux vous aider? Quel gâchis! Alors que vous aviez, Mathieu, une occasion en or de vous démarquer, oui, avec un sujet auquel personne n'a pensé, qu'aucun média n'a songé à traiter, la crise politique en France. Là, il y avait de quoi faire. La difficulté de trouver un Premier ministre, l'usure de la présidence Macron, législative anticipée ou pas, la majorité introuvable au Parlement, présidentielle anticipée ou pas, la stratégie du Front National, les querelles à gauche, que fera Bayrou, qui est le cornu, et mille autres questions tellement peu explorées et commentées, si riches de nuances, si finement complexes qu'aucun journaliste n'ose s'en emparer. Des questions dont pourtant votre producteur, soi-disant bardé de diplômes, Cyril Lacarrière, aurait pu faire son miel plutôt que d'aller ramasser le tout venant dans les caniveaux du vulgum pécus. Et vous, Mathieu, oui, vous êtes tombé dans le piège comme un balourd. À ce rythme-là, je vous le dis, vous ne ferez pas de vieux os sur France Inter. C'est mon dernier avertissement.
Ah, peut-être pas, puisqu'on vous retrouve la semaine prochaine. Merci François Rollin. À la semaine prochaine, à vendredi prochain dans Zoom Zoom Zen. Merci Marie Mindras d'être venue nous expliquer le ZAPAD. Je rappelle votre dernier livre, qui nous explique beaucoup de choses sur la Russie et sur Vladimir Poutine. La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, paru chez Kalman Levy. Et puis, on l'aura compris, on peut vous lire aussi dans la revue Esprit. Zoom, zoom, zen.